Et bonjour. Voilà, nous y sommes pour cette nouvelle édition des carnets hebdomadaires de Comaguerre, toujours sur l'actualité internationale, toujours en compagnie de Roselyne, que je
bonjour.
Salue, et toujours en compagnie de Aïcha, que je salue, qui est casquée, mais casquée honorablement, j'entends. Hein, ce n'est pas un casque bleu, c'est pacifique quand même. Voilà. Merci Aïcha d'être avec nous.
Voilà. Merci.
Sous l'œil paternel, j'allais dire, je peux me permettre, de Sidi qui regarde si elle se débrouille bien avec le pupitre. Voilà. Mais Sidi, c'est un très bon papa, on le sait tous. Donc, quand il a un œil paternel, hein, voilà, on ne perd pas son temps. Bien, on va commencer par évoquer quelques petites choses pour passer à des plus grandes après. Je vais parler d'un monsieur dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, qui a eu des ennuis avec l'administration française. Il s'agit d'un jeune homme, enfin, qui était jeune à l'époque, qui était un jeune diplômé de l'ENA, il devait avoir entre 30 et 35 ans, qui était en poste au Sénat de la République. Hein, c'est normal, le Sénat, assemblée officielle, et il y a quelques énarques dans le personnel du Sénat qui sont chargés chacun de traitement de dossier. Lui, il a un poste très particulier, puis il était chargé de l'entretien des bâtiments. C'est un travail comme un autre, effectivement, le Sénat a un lieu officiel avec une salle et puis des lieux de commission, une bibliothèque, enfin, donc tout ça mérite d'être entretenu, il y a une cafétéria, enfin, voilà. Donc il y a une vie collective dans le Sénat et il faut entretenir ce bâtiment qui n'est pas de la première jeunesse, le mettre bien en état. Bon, il s'appelait monsieur Benoît Kennedy, donc il avait fait l'ENA et il avait ce poste pour gagner sa vie et faire son travail. Bon. Ce monsieur, par ailleurs, avait une activité, appelons ça militante, puisqu'il se trouvait être président de l'association d'amitié franco-coréenne. Bon, il était libre de ses soirées, il n'était pas au service d'une puissance ennemie, hein, puisque l'association des amitiés franco-coréennes, il y en a une en France, il y en a dans d'autres pays, s'intéressait à la fois aux Coréens du Sud et aux Coréens du Nord, et elle avait même une espèce d'ambition qu'elle partageait, bien entendu, avec la majorité des Coréens, c'était d'éviter de la permanence de la coupure entre ces deux parties de la Corée, pays historiquement ayant une culture commune, une langue commune, ayant une longue vie commune, et qui, vous le savez, depuis donc 1953, est coupé en deux, après avoir été victime d'une colonisation extrêmement féroce de la part de l'envahisseur impérialiste japonais de 1910 à 1945. Et donc, des associations d'amitié franco-coréenne, il y en a une en France, il y en a dans d'autres pays, font un travail, on donne la parole, on fait connaître la Corée, qui est un pays qui a beaucoup de choses à raconter, très très longue histoire, deux millénaires, une langue, une culture particulière, à ne pas confondre ni avec la culture japonaise, ni avec la culture chinoise. Donc ça, c'est une identité forte, puisque ce petit pays, comparé aux deux autres, surtout à la Chine, a réussi à maintenir sa langue, sa culture, ses traditions, à l'écart de ces deux géants. Géant économique du côté japonais, et puis les souffrances infligées, et géant à toutes les tailles du côté chinois. Bon. Et un beau jour, c'était de ça, il y a à peu près, je me souviens plus de la date, ça n'a pas beaucoup d'importance, monsieur Kennedy Benoît, donc fonctionnaire en poste faisant son travail, donc pour lequel il était chargé, il entretient des bâtiments, se trouve victime d'une plainte, et se trouve entraîné en prison, enfin mis en garde à vue par la police sur la base de renseignements fournis par les services d'espionnage de la France en prétextant que ce monsieur travaillait pour une puissance étrangère. Sous-entendu, bien entendu, pas la Corée du Sud, mais la Corée du Nord, hein, qui est un ennemi désigné par notre République. Bon. Il est donc resté en prison assez longtemps pour l'instruction. Le procès a eu lieu. Il n'a pas beaucoup fait parler de lui parce qu'il a dit que c'était sa stratégie. Disons, ben, je fais confiance à la justice et j'espère que je serai acquitté puisque j'ai rien à me reprocher. Je m'intéresse à la Corée. Je connais des Coréens du Nord et du Sud. Je m'intéresse à la Corée. Je veux qu'elle soit plus connue. Je ne fais que mon travail, comme beaucoup d'autres le font pour l'association des amitiés franco-brésiliennes ou franco tout ce qu'on veut. Hein. C'est une activité très très courante. Il faut savoir que même au Parlement, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat, il y a des groupes d'amitié de pays. Et un député peut très bien être le président d'un groupe d'amitié. Entre eux. Par exemple, il y avait jusqu'à il y a un mois un député des Bouches-du-Rhône ou du Var, je ne sais plus, enfin, de ces coins-là, qui était un député écologique, qui était président du groupe d'amitié franco-cubain. Bon. Et donc, on ne lui a jamais reproché de travailler pour une puissance étrangère. L'amitié franco-cubaine, c'est des échanges culturels, c'est des échanges informatiques, c'est des échanges, tout ce qu'on peut imaginer, des échanges sanitaires, ben voilà. Bon. Donc, cette activité-là, normale, a été reprochée à M. Kennedy parce qu'on disait, vous, en fait, c'est une couverture pour défendre les intérêts de la Corée du Nord, l'épouvantable Corée du Nord, qui, vous savez, a des missiles avec des bombes atomiques, etc. Et donc, on lui reprochait d'intelligence avec l'ennemi. Il vient d'être acquitté, et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter, il vient d'être acquitté, et donc c'est une très bonne chose. Il va pouvoir retrouver, je pense, un poste dans l'administration française, probablement pas au Sénat, parce que je pense qu'il a, autant que je sache, un mauvais souvenir du Sénat, puisqu'assez vite, la présidence du Sénat lui a retiré son salaire. Voilà, ce qui ne se fait pas pour un fonctionnaire de la République.
Il est resté combien de temps en prison ?
Ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans. Oui, le temps de l'instruction, procès, etc. Oui, oui. Alors, je ne sais pas de quoi il a vécu, mais voilà, la République est très sévère et elle sait être injuste autant qu'elle est sévère. Hein, là, c'était tout à fait le cas. Donc, je salue le retour à la vie normale de Benoît Kennedy. J'espère qu'on l'aura. C'était déjà le cas, on l'avait eu à l'occasion des missions qu'on avait faites sur la Corée. L'association d'amitié franco-coréenne fait un excellent travail. Peu connu parce que ça ne suscite pas énormément de curiosité. Il y a des associations d'amitié beaucoup, beaucoup plus larges, beaucoup plus connues. Mais c'est un travail utile puisque ça permet de faire comprendre qu'il y a derrière les avanies de l'histoire contemporaine, les découpages, les frontières, les bombardements, les armées étrangères sur le territoire, il y a des pays qui ont le droit de vivre comme tous les autres et qui ont en plus un passé historique de grande taille et de grande qualité. Voilà. J'ai tout dit sur Benoît Kennedy. Vous pouvez, si vous vous intéressez au personnage, vous tapez son nom, donc Q, c'est Q-U-E-2-N-E-D-E-Y. C'est presque Kennedy, mais prononcé à la normande, j'allais dire. C'est quelque chose comme ça. Mais je retiens aussi donc, la mauvaise manière de la présidence du Sénat, en l'occurrence M. Larcher, pour avoir supprimé le salaire, suspendu le salaire de ce monsieur fonctionnaire de la République, alors qu'il était en procédure d'instruction, c'est-à-dire sans condamnation. Voilà. Donc, présomption d'innocence, vous pouvez toujours en parler, hein, facile à dire. Bon. On a probablement voulu lui faire peur, voulu essayer de peut-être chercher, ça c'est des vices de service secret, des complices à lui, nord-coréens, qui se dévoileraient, qui se manifesteraient. Enfin, il y a dû avoir un très, très sombre jeu par rapport à ce personnage, qui avait la qualité de dire, faire son travail militant au vu et au su de tous. On n'est pas président d'une association connue, qui a un journal, qui tient des assemblées générales, qui a des publications. Il n'y avait rien de clandestin dans l'activité de l'association d'amitié franco-coréenne. Bon, donc moi je salue l'amitié franco-coréenne et j'espère que le peuple coréen pourra un jour retrouver l'unité dont les puissances extérieures l'ont privé. Voilà, c'est dit. Et puisque j'en suis à parler de la Corée, je vais l'inclure dans un ensemble beaucoup plus général, au moins la Corée du Sud, qu'on appelle l'Organisation de coopération et de développement économique. Alors vous connaissez certainement le sigle OCDE, qui est hérité d'un cycle plus ancien, puisque ça s'appelait avant l'OEC, l'Organisation européenne de coopération économique. Je vois, Aïcha qui est très très attentive. Voilà. Et donc c'est une organisation qui avait été montée après la Deuxième Guerre mondiale pour répartir sur la planète, au moins la partie de la planète qui était concernée, les crédits du plan Marshall, hein, Organisation européenne de coopération économique. Ce qu'elle a fait. Et puis à un moment donné, elle a changé une fois que l'aide Marshall a été stoppée. Elle a élargi son cadre. Elle est devenue organisation de coopération et de développement économique. C'est-à-dire, c'est un espèce de club des pays capitalistes riches où on échange des informations. On se serre les coudes à l'occasion, ça on sait le faire. C'est le monde du grand capital qui est organisé sur la base des questions économiques, des statistiques, etc. Et c'est un espèce de guide pour les gouvernements des différents pays membres. Il y en a une vingtaine. C'est une espèce de guide en ce sens que l'OCDE, qui rassemble toutes les données sur l'état du capitalisme occidental, je vais faire ça simple, est capable de dire à un gouvernement, attention, là, c'est pas tout à fait dans la tendance, là, vous en faites un peu trop de cet côté, vous en faites pas assez d'un autre, enfin, on peut, hein, et il se prive jamais de donner des conseils. Et on sait d'expérience, parce qu'il y a des chefs d'État et des chefs de gouvernement, y compris français, qui l'ont reconnu, quand l'OCDE allume un clignotant en disant « là, vous avez telle politique en projet, ça ne va pas passer ». Hein, ça ne va pas passer, c'est-à-dire ça ne correspond pas aux intérêts généraux du capitalisme international à domination américaine. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ce qui explique que l'OCDE, après donc être transformée donc, d'organisation européenne, s'est élargie aux vrais amis. Alors je mets les vrais amis du bloc occidental, pour faire simple. Et donc on trouve aujourd'hui dans l'OCDE la Corée du Sud, évidemment, il y a des troupes américaines, le Mexique, alors il n'y a pas de troupes américaines, mais elles sont tellement près que c'est à peu près le même effet, et quelques autres, la Turquie. Et donc on a élargi ça à un ensemble de puissances économiques sur la planète entière qui sont dans la politique générale du grand capital international à dominante états-unienne et européenne. C'est ça l'OCDE. Et l'OCDE s'est fendu ces derniers jours, c'était la semaine dernière, d'un rapport sur la situation de l'économie dans son secteur. Alors effectivement, ils se sont aperçus qu'il y avait des préoccupations. Alors ils ont mis ça sur le compte, c'est la guerre en Ukraine qui fait que tout va mal. Bon, en fait. Alors évidemment, c'est la guerre en Ukraine, mais c'est facile de dire que tout le mal vient là, et ils pouvaient essayer d'aller voir un peu plus loin. Alors effectivement, les signaux de mauvaise santé sont manifestes, on les connaît. C'est la hausse des prix dans la plupart des pays membres de la dite OCDE. Ça, c'est tout à fait clair. Donc des perspectives d'inflation sur lesquelles je vais revenir. Et puis par ailleurs, des perspectives sur le produit intérieur brut des différents pays membres qui ne sont pas du tout conformes, on est en juin, à ce qu'elles étaient en décembre ou en janvier du début de l'année. C'est-à-dire que c'est moins partout. Hein. Les perspectives annoncées, ça vaut pour la France, mais pour tous les autres, ne sont pas du tout au rendez-vous. Alors c'est évidemment très facile de dire, vous voyez, c'est depuis le 24 février, tout s'est effondré. Alors tout s'est effondré, mais ce n'est pas tellement la guerre, c'est ça qu'il faut noter, c'est la façon dont l'Occident a traité le conflit, c'est-à-dire en mettant une barrière entre la Russie et le reste du monde, en interdisant le commerce avec ce pays-là, en mettant des interdits sur la circulation des capitaux, en gelant de l'argent russe qui était de l'autre côté de la frontière ainsi tracée. On ne l'a pas dit parce que ce n'est pas poli. C'est-à-dire, faut pas... Mais ce qui s'est passé donc, dans les jours suivant le 24 février, c'est que l'Occident, les États-Unis en tête bien sûr, a tiré le rideau de fer sur la Russie. C'est ça que ça veut dire. Alors, le mot n'est plus à la mode, on ne l'utilise plus. Mais c'est exactement la même réalité, c'est-à-dire la même réalité que quand Churchill dit en 1947 « il y a un rideau de fer qui est tombé », c'est pas lui qui... Enfin, c'est pas lui. Il trouve le mot, mais en fait, c'est pas l'URSS qui dit « je veux plus voir personne ». L'URSS dit « écoutez, j'ai fait ma part du travail pour faire tomber le nazisme, j'ai beaucoup de choses à réparer chez moi, je suis fatigué, je suis en dette, j'ai besoin d'un peu souffler ». Et l'autre dit « non, non, tu souffleras pas parce qu'on t'a fait confiance pour faire la guerre aux nazis, mais après on ne te veut plus ». C'est ça qui se passe. Et je rappelle, et j'insiste là-dessus, le rideau de fer a été tiré par Winston Churchill, pas par Staline. Il faut que ce soit clair. C'est lui qui l'a dit. Et la Russie a dit, mais attendez, qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous ai ôté l'abcès que vous aviez dans votre corps, que vous aviez nourri vous-même, qui s'appelait le nazisme. Bon. C'est ça que vous me reprochez. Et vous me reprochez aussi les 25 millions de morts. Et vous me reprochez toutes les usines détruites et toutes les écoles détruites et tous les hôpitaux détruits. C'est ça. C'était ça, le rideau de fer. Hein. Vous êtes dans la misère maintenant. Ben restez-y. Hein. Voilà. Bon. Ce qui s'est passé, donc, alors, il n'y a pas eu ces termes excessifs au moment, après le 24 février, mais c'est exactement ça qui s'est passé. Hein. On ne vous veut plus. Vous n'êtes pas partie de notre monde. Désormais, vous êtes dans un camp adverse, et on espère que vous allez vous isoler, et on espère que vous allez beaucoup, beaucoup en souffrir. Ça vous apprendra. Bon. Ça ne se fait pas de toucher à nos petits amis ukrainiens, qui sont, comme on l'a compris depuis, des gens aux mains très, très blanches et très sympathiques, et ayant de bonnes fréquentations. Bon. Alors, c'est ça la réalité. Donc la crise de la guerre, c'est la décision d'exclure la Russie de l'économie occidentale dans laquelle elle était, on le sait, très fortement impliquée. Alors, ça pose des problèmes difficiles à résoudre. On en a parlé pour le gaz et le pétrole. C'est bien joli de dire, mais là, les tuyaux qui existent et les branchements qui existent, par quoi on les remplace? Alors, il y a des effets très intéressants. Par exemple, parlons du gaz. Bon, les Européens disent, ça y est, on n'achète plus de gaz à la Russie. Alors, ils continuent à en acheter un peu, mais enfin, moins qu'avant, c'est évident. Et les États-Unis arrivent en disant, moi, je vais vous en vendre. Alors, sous-entendu, ils ne disent pas trop qu'ils le vendent beaucoup plus cher, mais c'est effectivement le cas. Et ce qui se passe, c'est que vous avez aujourd'hui aux États-Unis une inflation qui est au niveau de 8-9%, qui est lié principalement à l'augmentation du prix de l'énergie, du carburant et du gaz sur le territoire des États-Unis. Pourquoi ? Parce que les États-Unis, le gouvernement des États-Unis a décidé d'envoyer tout ce qui peut de gaz fabriqué aux États-Unis, le fameux gaz de schiste, aux clients habituels de la Russie pour qu'ils ne soient pas dépendants du gaz russe. Alors quand vous dites aux producteurs de gaz de base dans le Dakota ou dans le Texas et tout, vite, vite, il faut tirer le maximum de gaz du sol américain et il faut l'envoyer tout de suite et arrêter un peu la consommation, enfin de fournir les clients américains, ben, ça fait quoi ? Ça fait monter les prix, puisqu'effectivement, il y en a moins. Et puis, pour le fabricant ou l'extracteur de gaz de schiste, c'est le bonheur. On lui dit, allez-y, tirez au maximum, exploitez et tout. Et lui, il dit, ben oui, mais si l'Ukraine, c'est prioritaire, j'envoie d'abord en Ukraine et puis ce qui reste, je le donne aux États-Unis. Mais comme on est dans une économie de concurrence hyper capitaliste, ça fait monter. Il y a une tension sur le marché, il n'y a pas assez de gaz. Donc aujourd'hui, l'inflation à 8-9% aux États-Unis, elle est liée presque aux trois quarts au prix du gaz et du pétrole, du carburant pour les voitures, qui ont augmenté. Parce qu'on ne peut pas à la fois servir l'Europe de l'Est et tous les gens qui étaient sous la coupe de la Russie, comme on dit, et puis continuer à servir normalement le marché des États-Unis. Ça, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais il est facile à comprendre. Alors ça donne donc des résultats qui sont des résultats concernant, je l'ai dit déjà, l'inflation. Alors je vous donne quelques éléments d'inflation, puisque l'OCDE publie donc des documents de base dans lesquels il donne l'inflation telle qu'elle a été analysée et comptabilisée à la fin de 2021, les hypothèses actuelles pour 2022, et il se risque, on verra bien, dans des hypothèses pour 2023, l'hypothèse étant que ça devrait aller quand même un peu mieux une fois sorti du gros de la crise ukrainienne. Alors, laissons-leur la responsabilité de leurs anticipations, mais ça donne donc pour l'ensemble de l'OCDE 3,7% d'inflation, donc de hausse des prix pour 2021, 8,8% pour 2022, vous voyez qu'on a fait un saut tout à fait considérable, et on redescendrait à 6,1% pour 2023. Ça, c'est le global de tous les pays donc capitalistes développés. Mais après, chacun vit une vie différente en fonction de la situation de son économie, de la situation de ses finances et tout. Alors certains ont des effets très très forts sur l'inflation 2022, on le voit déjà, je vais vous donner les plus caractéristiques. Le Royaume-Uni, 8,5%, l'Espagne, 8,5%, qui d'autre encore ? La Russie est à 16%, ça je vous puis ça sur que ce soit vrai. La Turquie serait à 72%, mais vous savez que la monnaie turque était dans un état assez dramatique. L'Argentine est à 60% de taux d'inflation, ça veut dire que les prix ont augmenté de 60% depuis le début de l'année, on est en juin. Ça c'est considérable et ça fait des effets sur la consommation populaire, vous imaginez, qui sont dramatiques. Bon. Et puis d'autres s'en sortent un peu mieux. La France, je dois le dire, puis ça fait partie des chiffres qui ne sont pas contredits par les statistiques nationales, s'en sert un peu mieux puisqu'elle est à 5,2 perspective pour 2022 et elle redescendrait à 4,5 pour 2023. L'Allemagne est bien au-dessus de nous, à 7,5%. Les États-Unis, je l'ai dit, seront à 7 à la fin de l'année, c'est possible, improbable. D'autres s'en tirent beaucoup mieux. Enfin, le Mexique, pas tellement, presque à 7% pour cette année. Voilà, donc le phénomène est global, mais après, chaque politique locale, chaque état des finances, chaque déficit budgétaire a une incidence. Et chaque politique suivie a de l'incidence, puisque vous verrez sur des questions de pouvoir d'achat qu'il y a des pays qui, par exemple, en campagne électorale, suivez mon regard, font un petit effort pour que le pouvoir d'achat ne baisse pas trop, parce que c'est pas bon pour les électeurs qui se fâchent. Bon, ils se fâchent quand même, on en parlera. Voilà pour l'inflation. Et quant aux projections pour le produit intérieur brut, que j'ai quelque part là, c'est un autre tableau. Je ne l'ai pas. Enfin, disons que tout le monde baisse beaucoup. Tout le monde baisse beaucoup. En gros, les projections étaient autour de 4% pour l'année à venir, pour l'année en cours, et elles descendent en gros de moitié pour l'année telle qu'on peut la mesurer déjà. Les voilà. Voilà, je les ai là. Voilà. Donc les hypothèses OCDE, donc de croissance du PIB mondial et international, c'était de 3% pour 2022. À la fin de l'année dernière, on est en perspective. À la fin de 2021, ils avaient annoncé un taux de croissance de 5,8% pour l'économie mondiale. Là, ils sont déjà descendus à 3% et ils descendent à 2,8% pour l'année prochaine. Donc il est clair que la crise est là. Elle n'est pas partout, puisque la Chine a un petit peu baissé probablement, mais elle va remonter l'année prochaine de plus de 5. Et l'année dernière, la Chine a eu un taux de croissance de 8%, qui est donc 3 points supérieur à la moyenne mondiale. Donc là, on en est là. L'Inde aussi a une bonne croissance en 2021, 8%, avec une baisse cette année, mais une remontée l'année prochaine. On a donc des choses variées, mais en gros, toutes les perspectives de croissance du PIB sur l'année 2022 se sont avérées inexactes. Et on en est là. Et après, alors, chaque pays fait un peu sa cuisine, ses arrangements avec le déficit budgétaire, les emprunts qu'il peut faire, etc. Les échéances électorales, au passage, parce qu'on ne néglige jamais ça quand on est à la tête d'un gouvernement. Mais c'est ça, le choc de la guerre. Le choc de la guerre, il est donc très inégalement réparti, mais il touche beaucoup plus l'Occident que la Chine, l'Inde. Hein. Ça, c'est tout à fait clair. Que même certains pays d'Afrique, je pense à l'Afrique du Sud, qui a encore un taux de croissance positif pour cette année. Et donc, il y a une leçon donc, très occidentale qui est tirée de la guerre. Alors, qui la tire ? Alors, il y a à l'OCDE un personnage qui a d'ailleurs présenté les résultats de cette étude à la presse, qui s'appelle Madame Laurence Boone. C'est un nom que vous avez peut-être déjà entendu parler, ou vous l'avez peut-être vu sur des écrans de télévision. Bon, elle est donc secrétaire générale de l'OCDE. Vous savez que le siège de l'OCDE est à Paris, au château de la Muette. Et donc Madame Laurence Boone a ses entrées à l'Élysée et on chuchote, mais je pense que ce n'est pas des mauvais esprits, que Madame Laurence Boone, quand elle demande à rencontrer Emmanuel Macron, le rencontre dans la journée et lui fait part de ses préoccupations. Puisque comme ça, elle le met tout à fait en symbiose avec l'atmosphère générale du camp capitaliste occidental. C'est ça la fonction de Macron, on l'a compris, sur la scène de notre pays. Voilà, je voulais donc dire ça. Donc inflation, donc difficulté pour la consommation populaire, c'est très très évident. Production en baisse ou moindre croissance. Et puis je me suis arrêté. Alors ça n'avait pas tellement à voir avec, avec ce papier et cette présentation des résultats de l'économie globale, mais je suis tombé sur un papier sur la transition verte. Alors je m'y arrête parce que c'est assez intéressant. Parce qu'il y a donc dans les statistiques de l'OCDE un petit graphique qui compare. Alors, je vous donnais les unités de mesure. Ça compare le nombre de kilos de matières premières utilisables pour fabriquer un véhicule. Alors, vous comprenez bien le problème. On prend une voiture, on y met du plastique ici, de la tôle d'acier là, un peu de cuivre dans des fils, du caoutchouc dans les pneus. Enfin, donc, on consomme des matières premières de différentes origines. Et donc ce que donne cette statistique de l'OCDE, c'est donc dire pour faire un véhicule, c'est une moyenne bien entendu conventionnelle, il faut 34 kilos de matières premières. Alors bien sûr, après, ce minerai de fer va être transformé en acier, etc. Ce pétrole va être transformé en matière plastique, tout ça, vous le savez. Donc c'est très intéressant. Et donc la comparaison avec un véhicule électrique est somptueuse. Écoutez bien. Pour faire le même véhicule électrique, donc il sera, vous le savez, à puissance égale un peu plus lourd, parce qu'on sait que les batteries sont lourdes, il faut 207 kilos de matière première. C'est-à-dire, il faut multiplier, wow, ça, il faut multiplier ça par 6 ou par 7. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'on est content. Hein. Alors, nous, on est content. Enfin, nous, je me place dans la peau où on nous met dans la peau du consommateur occidental verdi jusqu'au bout des ongles. Hein. Celui qui fait attention, je ne vais pas jeter, je ne vais pas gaspiller, etc. Et on lui dit, monsieur, regardez, dans la rue, là, on vient de vous brancher une prise. Hein. Merci, monsieur Muselier, pour charger votre voiture le soir quand vous revenez à la maison. Donc, vous allez acheter une voiture électrique. Eh bien, monsieur, vous allez consommer 207 kilos de matières premières, c'est-à-dire vous allez consommer 7 fois plus de matières premières issues des entrailles de la Terre, de notre mère la Terre, comme vous dites tous, que si vous aviez gardé votre véhicule au pétrole. Alors, je me suis arrêté là-dessus parce que ça permet de donner une juste mesure des espèces d'effets de propagande dont on est hélas abreuvé pour dire le vert c'est l'avenir, le vert ceci, le vert cela, etc. Et on ne va pas regarder ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une vision totalement égoïste. Nous, on économise. Nous, on ne jette pas. Mais à la place, effectivement, on met sur le marché des produits qui vont causer des dommages énormes à la croûte terrestre, qui vont engendrer des guerres civiles ou des guerres impérialistes dans différents endroits. Je pense, il faut savoir, par exemple, le coup d'État en Bolivie, dont maintenant on est sorti, a été organisé au moins en partie par ceux qui voulaient maîtriser le lithium de Bolivie. Le lithium de Bolivie... produit absolument indispensable pour fabriquer ces fameuses batteries qu'il y a partout. Bon. Alors, Alors, ils en sont sortis, mais c'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a d'autres conflits qui ne sont pas les conflits. Alors, on est habitué maintenant à la géopolitique pétrolière, où on sait qui produit, qui achète, etc. On sait qu'il peut y avoir des tensions là-dessus. Mais en passant à 200 kilos par véhicule, on introduit d'autres géopolitiques qui vont régler notre futur vert ici, mais pas vert pour tout le monde. Pour la Bolivie, c'est pas vert du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on extrait ce lithium? Comment on essaye de remettre en état la nature une fois qu'on a fini d'exploiter la mine, etc. Toutes ces problématiques-là que les pilleurs, les pillards européens et états-uniens ne veulent pas connaître. C'est-à-dire, on vient dans un pays, plus ces réglementations environnementales, minières sont élastiques, faibles, plus on peut corrompre les dirigeants, etc., plus on peut extraire à moindre coût. Ce qu'on ne ferait pas, ce qu'on ne pourrait pas faire, si vous ouvrez, imaginez, ça s'est déjà fait, ça n'a pas abouti. Si vous dites on ouvre une mine d'uranium dans le Massif central, vous avez une levée de bouclier considérable, ou au moins d'exigences des citoyens. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? Et qu'est-ce qu'on fait de tous les camions qui viennent depuis la mine? Etc., etc. Qu'est-ce qu'on fait des émissions éventuellement radioactives quand on extrait ce minerai?
On laisse les déchets toxiques en Afrique.
Voilà, et on balance les déchets, c'est les autres. Bon. Donc c'est ça aussi l'économie verte, il faut bien le voir avec tous ces aspects. Donc c'est une économie faite pour donner bonne conscience aux consommateurs européens déjà bien... comparativement, hein, je ne veux pas dire que tous les Européens ont leur assiette pleine tous les matins, ce n'est pas du tout ça, mais comparativement beaucoup plus à l'aise que les pays, la population des pays, dont seront extraits tous ces nouveaux produits. Alors j'ai parlé du lithium, c'est un des plus connus, il y a l'ensemble des terres rares, qui sont tous les produits, alors en quantité minuscule, mais qui sont dans tous les téléphones portables, dans toutes les tablettes, etc. C'est ça aussi l'espèce de mythe qu'on nous fait de l'économie verte, de l'économie qui fait de mal à personne. Si, si, cette économie-là continue à extraire des produits de la terre, à ne pas les extraire forcément dans des conditions les plus satisfaisantes du point de vue de l'équilibre général de la nature, et elle le fait en exploitant des populations ou des gouvernements qui n'ont pas les capacités de se défendre. Et s'ils essayent de les avoir, ils finissent en général assez mal. On le sait. Les Boliviens ont payé le prix. Alors, je dis un mot sur la Bolivie, puisque quand même, Madame la présidente putschiste, Madame Agnès, a été condamnée par un tribunal bolivien dans des conditions... Donc, elle n'a pas été pendue, elle n'a pas été assassinée. Elle a été condamnée par un tribunal bolivien pour violation de la Constitution telle qu'elle était. Elle n'avait pas été changée. Elle s'est arrogée des pouvoirs en s'installant par la force au pouvoir qu'elle n'avait pas. Et donc, elle a été condamnée. Condamnation au demeurant relativement faible, puisque c'est 10 ans de prison. Et elle a déjà accompli, je crois, 2 ans en préventive. Bon. Alors, on ne va pas pleurer sur Madame Agnès, mais c'est pour montrer qu'il y a deux façons de sortir d'une période putschiste et fasciste. C'est de dire, ben maintenant, on revient au texte et à la Constitution et aux règles de droit qui étaient en vigueur avant, on les applique et on ne liquide pas ceux qui ont fait le putsch, on ne règle pas des comptes comme entre des bandits. C'est ça qui est très intéressant comme démarche. Voilà, puisque je suis en Amérique latine, j'y reste 2 secondes. J'y reste 2 secondes, même un petit peu plus, pour dire qu'en Équateur, vous vous souvenez qu'à la dernière élection présidentielle, on avait été un petit peu surpris par l'élection d'un banquier qui promettait de poursuivre la même politique bancaire en faveur des multinationales, en particulier états-uniennes. Il l'a fait, mais il se trouve que ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Et donc le mouvement indien qui est très très fort, le mouvement minorité indienne qui est très très fort en Équateur, qui a déjà à son actif dans les années 90 et 2000 le renversement de plusieurs présidents, est en train de repartir sur les mêmes bases. Et donc, il y a une grève générale qui est en cours en Équateur contre le président Lasso. C'est Lasso sur Lasso, j'allais dire, si j'ose, pardon. Ça, c'est pour l'Équateur. Donc, on en reparlera. Mais tout ne passe pas, et tant mieux, ça ne passe pas. Donc, il avait été un peu élu par défaut, alors qu'il y avait un candidat progressiste qui a été battu. Et puis, la population a fait ses comptes. Ben, le compte n'est pas satisfaisant. Je viens un peu sur la Colombie, dont on reparlera probablement mardi prochain, parce que vous savez que dimanche, c'est le 2e tour de l'élection présidentielle en Colombie. Et donc, on sent bien que la situation est très tendue. Les derniers sondages publiés donnent les deux candidats, donc le candidat progressiste, le Pacto Histórico, à égalité avec le candidat M. Hernández, le candidat qui est sorti un peu de derrière les fagots, qui se présente comme le candidat du renouveau de la droite, je précise. Donc, il y a une vraie inquiétude dans le camp de cette droite, parce que M. Hernández est arrivé après la faillite électorale et probablement la faillite politique du candidat du camp au pouvoir, du clan Uribe, Duque, qui était là, et ils ont préféré porter ce vieux monsieur qui n'avait pas fait de politique, enfin pas de politique nationale, il était simplement élu maire d'une grande ville dans la campagne colombienne, et donc il se cache un peu derrière ce monsieur. Alors le programme de ce monsieur, je vous le résume, mais ça en dit tellement long sur ce qu'est la Colombie, voilà ses slogans. Écoutez bien, Monsieur Hernández s'adresse au peuple. Je m'engage à ne pas voler. Premier point. Je m'engage à ne pas mentir. Deuxième point. Je m'engage à ne pas trahir. Troisième point. Voilà. Grandiose. Hein. Grandiose. Bon, on ne sait pas quelle politique il va faire avec ça. Et comme peut-être il mentira, enfin, on ne saura pas, mais voilà avec quoi il essaye d'attirer l'électorat. C'est-à-dire qu'il n'est pas très, très porteur. Hein. Monsieur Petro, à côté...
C'est un joli projet.
Voilà, c'est un projet. Ouais, c'est un peu un projet de... Oui, qui est son confesseur, enfin, qui notera ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et tout. Bon. Mais ça, c'est le spectacle. Alors, dans le spectacle, devinez d'où il a fait ce discours. Je m'engage à ne pas voler, ne pas mentir, ne pas trahir. Il était en campagne électorale, c'est cette semaine que ça s'est passé. Il était à Miami pour dire ça. Parce que là-bas, il est plus tranquille. Et il a même dit, après son interview, il n'a pas dit que ça, bien entendu, mais c'est ça son slogan de campagne, il a même dit, vous savez, là-bas, j'ai peur qu'on m'assassine. Alors c'est magnifique, ça consiste à faire porter aux autres la responsabilité éventuelle de ce qu'il ferait lui. Et il a même assisté pour bien faire froid dans le dos à ses auditeurs, et ce serait même au couteau. Aïe. Bon, c'est peut-être le premier mensonge. Voilà, on en est là. Pauvre M. Hernández. Ceci étant, bon, l'affaire n'est pas du tout faite, parce que, je vous l'ai dit déjà, même si M. Petro gagne, il aura une faible, même pas de majorité parlementaire, et il aura affaire à la vengeance de la droite et des narco-trafiquants et du narco-État, qui sera extrêmement vigoureuse. Hein. Oui. Voilà. Et ils ont fait d'autres horreurs, mais enfin, j'en parle pas plus. On en reparlera, on fera le bilan la semaine prochaine. Dans les bilans, un petit mot sur l'état des finances de l'Ukraine. Ça vous intéresse. Le ministre des Finances de l'Ukraine, qui s'appelle M. Sergei Marchenko, a fait état de l'état des finances. Il a un budget, comme tous les ministres des Finances de tous les pays du monde. Et il a dit, dans l'état actuel des choses, nos recettes... Donc il faut savoir que le pays fonctionne comme il peut, mais dans toute une partie du pays, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de troupes russes, etc. Toute la partie centrale et ouest fonctionne. Bon. Mais n'empêche que les recettes correspondent en gros à un tiers des dépenses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent en gros dans les caisses à Kiev. Alors, peut-être ils achètent des armes ou peut-être on les leur donne, il n'a pas beaucoup investi sur le sujet. Mais ce qu'il a dit de très très concret, c'est qu'il est obligé d'emprunter tous les mois 5 milliards à l'étranger de dollars. Ce qui va faire, donc, il estime, 35 milliards de dollars à emprunter d'ici la fin de l'année pour arriver à boucler son budget. Alors on se demande qui va les lui donner, à quelles conditions. Donc la situation financière du gouvernement ukrainien est relativement faible. Mais ce n'est pas le seul aspect des choses. Et on va revenir un petit peu sur ce qui se passe plus concrètement en Ukraine. Mais je regarde là, on pourrait peut-être faire une coupure musicale. On va faire plaisir à Aïcha. On va écouter une petite chanson qu'on n'a pas écoutée la semaine dernière sur le groupe de Bilderberg.
Au nom du Bears, du Freak et du Market Freak, Amen.
Amen.
Oh Bilderberg,
yeah.
Par les compagnons de fausses rencontres et les Trilateral Brothers. Prêt de play?
Oh,
pour vous donner un petit air, c'était folklorique, c'était un groupe militant qui avait improvisé ça au moment d'un sommet du Bilderberg Group. Bon, c'était une façon de revenir là-dessus indirectement. Et je vais vous parler d'une visite dont on ne parlera pas beaucoup sous nos latitudes, qui est la visite du président vénézuélien en Eurasie. C'est comme ça que les services diplomatiques du Venezuela ont qualifié sa visite. Monsieur Maduro, donc, que vous connaissez de vue, a effectué un voyage, et il effectue un voyage à une période très très particulière. D'une part, c'est une période qui fait que le Venezuela est sorti des difficultés qui avaient été occasionnées par l'embargo, le blocus, etc., va mieux, s'est débarrassé du sieur de l'épouvantable sur Guaido, le faux président qui avait été honoré par l'Union européenne, les États-Unis et tout, comme étant un vrai président du Venezuela. Bon, tout cet épisode très noir est derrière soi et le Venezuela va mieux. Et donc, il a choisi de faire une visite chez des amis à lui qu'il a pas tellement dans le continent. Vous savez qu'il est voisin de la Colombie, donc il n'a pas d'amis très précisément. Côté Brésil, au sud, ce n'est pas très clair depuis que Bolsonaro a pris la place de Dilma Rousseff et de Lula. Bon, donc, en fait, ses amis sont ailleurs. Et vous allez voir, la visite en Eurasie a eu 4 étapes. Ça a dû s'achever hier. Et il a dû rentrer au pays. Il est allé. Alors, dans l'ordre, je donne les pays. L'Algérie, la Turquie, l'Iran et le Koweït, c'était la dernière étape hier. Donc le Venezuela a des amis dans ces 4 pays-là, et il a fait des interventions dans les différentes étapes qu'il a faites pour expliquer que désormais, il n'y a pas donc un camp avec les Occidentaux, les bons, ceux de l'OCDE par exemple, ou d'autres, et puis tous les autres qui sont de la valtaille ou des gens qu'on exploite ou à la limite qu'on élimine quand on le peut. Il y a aussi des relations d'État à État qui ne sont pas décidés par les États-Unis et qui sont des relations, alors il l'a dit en particulier en Iran, qui sont des relations entre États qui sont maltraités par les États-Unis. Il y a une espèce de solidarité des États opprimés. C'est très très intéressant le rapport. Alors, et on note que l'Algérie, l'Iran et le Koweït sont 3 pays pétroliers comme le Venezuela et que donc ils avaient déjà des relations, ils se connaissaient ne fût-ce qu'au sein des réunions de l'OPEP. Mais c'est des relations qui s'approfondissent. C'est des relations qui s'approfondissent et qui ont en même temps un caractère très politique. On a donc des relations très politiques en ce sens que M. Maduro est arrivé à Alger d'abord. Il l'a confirmé ensuite en Turquie et surtout en Iran en disant « Moi, je soutiens, moi, Venezuela, je soutiens la population palestinienne depuis le début et je continue à la soutenir. Ce qu'elle subit sur le territoire d'Israël est inacceptable du point de vue des droits de l'homme. » Bon, ça, il l'a dit et redit. Et donc ça, c'est une connivence, c'est mieux un accord politique très profond entre le Venezuela et les pays que le président Maduro a visités. Il a visité ces pays au moment où se tenait le sommet des Amériques. Alors ça, on vous en a parlé en long, en large et en travers du sommet des Amériques. Ben lui, d'abord, il ne voulait pas y aller, il n'était pas invité. De toute façon, le Venezuela ne fait pas partie de l'Amérique, c'est bien connu. On ne fait pas partie de l'Amérique quand on n'est pas dans les amis de Joe Biden. Bon, c'est tout. C'est là le seul critère. Donc il savait que le Venezuela n'y serait pas, mais il savait aussi que ça ne se passerait pas très bien puisqu'il y a une série de pays qui ont refusé d'envoyer au moins des chefs d'État, c'est le cas du Mexique, à la réunion organisée par les États-Unis d'Amérique, en Californie, je crois. Et donc, en particulier, le président du Mexique qui a dit « Mais moi, je ne livre pas à cette mascarade. Hein. Tous les États d'Amérique sont membres de l'Organisation des États américains et il n'y a pas de raison que 3 d'entre eux soient exclus. » Donc, j'ai cité Cuba, vous le savez, le Venezuela et le Nicaragua. Donc c'était une espèce. Alors le choix du moment n'était pas le hasard, puisqu'en fait Maduro a décidé de faire cette tournée en Eurasie, comme il dit, chez des amis qui ne sont pas des amis des États-Unis, mais qui sont des amis du Venezuela, et pour dire « Moi, bien sûr, on me boycotte et je suis maltraité par le chef du continent américain, qui est un certain Joe Biden, mais à la limite, je m'en moque. J'essaye de pas trop en souffrir, mais je m'organise pour ne plus avoir à en souffrir trop. Et je m'organise là où je peux avec qui m'accepte et qui a les mêmes préoccupations politiques que moi. Les préoccupations politiques, c'est l'indépendance économique, c'est, et on va en reparler à propos de la visite en Iran, la souveraineté technologique. Et ça, c'est très, très important et décisif. Ça vaut pour Cuba aussi. La souveraineté technologique, pour un pays, ça veut dire je ne veux pas être dépendant d'un produit fabriqué par une multinationale allemande ou états-unienne, etc., qui va m'empêcher de fabriquer ce dont ma population a besoin. Parce que le système des sanctions fait que si j'ai besoin de ça et que je suis soumis aux sanctions, je ne pourrai pas y accéder. Y compris si ça me permet, moi, des développements. Ce n'est pas que pour la consommation. Y compris si ça permet des développements industriels. Je n'ai pas accès à telle machine, donc je ne peux pas entamer telle fabrication. Et on sait qu'une des difficultés de l'économie pétrolière vénézuélienne a été simplement l'embargo sur les pièces détachées dans les raffineries de pétrole. Ces pièces détachées étaient pratiquement toutes fabriquées aux États-Unis, et donc il était impossible de remplacer une pièce qui était cassée. Et donc vous pouviez arrêter une raffinerie de pétrole qui traitait plusieurs millions de tonnes par an parce qu'il manquait une pièce. Ça, c'est ça l'effet de l'embargo, et c'est ça que le Venezuela a tourné, et il l'a tourné avec l'Iran d'une manière grandiose. Je vais expliquer. Parce qu'à l'occasion donc, de la visite, alors il a vu tout le monde, il a vu le guide, M. Khamenei, le guide général, il a vu le président Raisi, il a vu tout le monde, et puis il a surtout une visite qui était centrée sur les questions de l'état de la technologie industrielle iranienne. Et il a constaté, et il l'a dit dans ses témoignages devant les micros de la télévision vénézuélienne, l'économie industrielle et technique iranienne est très très évoluée. À telle enseigne, et retenez bien ceci, que le Venezuela a commandé à l'Iran 4 pétroliers géants. Et donc il y en a un qui a été livré, enfin qu'on a montré au moment de la visite de Maduro. Pourquoi le Venezuela, qui est donc un gros producteur pétrolier, est obligé de commander des pétroliers en Iran ? Alors, il le fait pour avoir des pétroliers qui sont sous pavillon vénézuélien, les siens, qui appartiennent à la société pétrolière vénézuélienne, parce qu'il s'est aperçu que le régime des sanctions et des embargos faisait que si le pétrole vénézuélien était chargé, par exemple, sur un pétrolier grec, l'armateur grec, lui, était taxé, ses avoirs et ses saisies aux États-Unis et tout, il ne pouvait pas travailler. Donc, les États-Unis avaient mis avec leurs sanctions le Venezuela dans l'incapacité d'exporter son pétrole. Bon, maintenant, donc, il a commandé 4. Le premier a déjà été livré. Le deuxième est pratiquement achevé, on l'a vu sur les reportages télévisés. Et les deux autres seront livrés d'ici la fin 2023. C'est-à-dire que l'Iran était en capacité, lui-même, dans ses propres chantiers, malgré tous les embargos qu'il a sur l'acier, sur les pièces détachées, etc., il sait le faire. Il est capable de faire des gros pétroliers et d'en fabriquer 4 pour le Venezuela. Il y a les moyens de lui payer, bien entendu, il n'y a pas de souci là-dedans. Bon, là, et ils se sont trouvés complètement d'accord, et Maduro a insisté dans les discours qu'il a fait à l'issue de sa visite en disant « J'ai apprécié un pays qui fait un énorme effort pour sa souveraineté technologique, parce que l'Iran, ça fait très longtemps qu'il y a des sanctions, beaucoup plus que pour le Venezuela, et donc ils en ont tiré les conséquences, c'est-à-dire nous n'acceptons pas qu'un pays étranger nous entraîne, nous interdise de nous développer et de développer telle ou telle production industrielle. » Ils l'ont déjà dit à satiété par rapport au nucléaire en disant « Nous ne voulons pas fabriquer de bombes atomiques, mais l'énergie atomique, donc fabrique de l'électricité, les produits radioactifs pour la médecine, la recherche sont nécessaires. Nous voulons être maîtres de ces productions-là. » Les États-Unis ont beau tempêter en disant que ça va être une bombe. Nous ne voulons pas de bombe. Nous voulons avoir la maîtrise de cette partie-là du développement technique et scientifique. Et nous n'acceptons pas qu'un État tiers nous dise que nous n'y avons pas droit. Nous faisons partie de la même humanité qui connaît toutes ces techniques, qui connaît toutes ces sciences-là et qui doit les partager. Voilà la double leçon du Venezuela et de l'Iran à la suite de cette visite. Bon, avec la Turquie, le discours a été du même genre. Oui, il est moins le quart. Oui. Donc, même chose, donc échange. Et avec l'Algérie, beaucoup insisté sur les échanges possibles, puisque vous savez que l'Algérie a une grosse industrie pétrolière, une grosse capacité technique en cette matière de gaz et de pétrole. Et donc, là aussi, il y aura des échanges, de la coopération. Et donc, Maduro a beaucoup insisté en disant « Le monde multipolaire est en train de s'organiser. J'en suis la preuve. Ces contacts que je viens d'avoir avec ces 4 chefs d'État en sont la preuve. C'est-à-dire que nous n'acceptons plus et nous sommes en capacité de résister à l'étranglement qu'organisent les États-Unis contre nos pays. » Ça, c'est tout à fait important pour la suite des opérations. Et je vais finir, alors puisque je suis toujours dans cette zone-là du monde, je vais finir par vous parler un peu de la Libye. Alors la Libye, on n'en avait plus parlé depuis longtemps, mais c'est vrai qu'à force d'être centré sur les questions ukrainiennes, russes, etc., on oublie que le reste du monde bouge. La preuve, la visite de Maduro, qui n'a pas été beaucoup relatée sur les antennes et sur les ondes occidentales, a un impact politique, a un sens politique très très fort. Alors pour la Libye, donc c'était passé en dehors, comment dire, en dehors des radars, on n'en parlait plus du tout. Alors la dernière fois qu'on a été un peu arrêté dessus, c'était au moment où on nous avait annoncé, c'était dans le dernier trimestre 2021, ou dans la deuxième moitié, qu'il y aurait finalement des nouvelles élections présidentielles. Et puis, tout d'un coup, ces élections présidentielles étaient parties en fumée. Il n'y avait pas eu d'élection présidentielle. Alors, la raison en était toute simple. C'était que les sondages qui avaient été faits sur place, vous imaginez que la Libye est suivie comme le lait sur le feu par les observateurs occidentaux, disaient que le fils aîné, le fils survivant de Mouammar Kadhafi, donc Saïf al-Islam, aurait probablement 50% des voix dès le premier tour et que donc il ne fallait absolument pas que ça ait lieu. Donc, plutôt que de dire, de courir le risque que le fils Kadhafi prenne la place de son père, on a gommé, on n'en parlait plus des élections. Puis après, il fallait retomber sur ses pieds. Alors retomber sur ses pieds, ça se fait en disant ben, comment on va faire en fait pour organiser de nouvelles élections. Alors là, il y a un rôle très très ambigu, même plus que ça, de la représentante de l'ONU en Libye, pour la Libye, donc qui est en Libye, qui revient à l'ONU au siège pour faire des rapports et tout, mais il y a une diplomate de très haut niveau des États-Unis qui est chargée de suivre la question libyenne pour l'ONU. Elle s'appelle Stephanie Williams, donc c'est une professionnelle, c'est une diplomate de très haut niveau de formation qui a déjà travaillé dans les pays arabes, et elle passe son temps, écoutez bien, Stephanie Williams passe son temps à éviter que la Libye se redresse. C'est ça sa mission. Alors, sous couvert de l'ONU, qui est de dire « on arrange les choses, on va faire des élections et tout », elle trouve toujours un moyen de ne pas faire avancer les choses et, au contraire, de retarder les choses parce qu'elle a une espèce de cauchemar dans sa tête. Le fils Kadhafi va prendre le pouvoir. C'est pas possible. On ne veut pas. Et donc, on laisse ce pays dans le désordre. On alimente ici les milices. On alimente ici un gouvernement fantoche, etc. Il ne faut surtout pas. Hein. Alors, j'insiste sur le fait que, grâce à cette politique de chaos organisée par les États-Unis et à travers l'ONU, et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que l'ONU se prête à ce jeu consistant à mettre une diplomate anti-arabe en poste à l'ONU, alors qu'elle est américaine, pour organiser, pour poursuivre le chaos en Libye. Il faut savoir que ça c'est très très important. Cette personne-là est en train de laisser rentrer à nouveau Daesh, l'État islamique, en Libye. Comme ça, on est sûr que le chaos va continuer. Et en plus, ça tombe très très bien. Merci les grands stratèges des États-Unis, parce qu'aujourd'hui, vous envoyez Daesh et les nouveaux échelons de l'État islamique en Libye, et les armes qui sont destinées à l'Ukraine font un détour et elles n'arrivent pas en Ukraine. Ou pratiquement, elles ne serviront plus maintenant, c'est trop tard, elles vont arriver en Libye. Et donc, vous avez là un mouvement qui est organisé, qui est connu par tous les services secrets, qui est connu par les États-Unis, qui est connu par l'ONU, qui consiste à alimenter une nouvelle guerre civile en Libye par l'intermédiaire de la fameuse crise ukrainienne. Voilà le monde dans lequel nous vivons, voilà le monde honteux dans lequel l'ONU se laisse aller, parce que c'est... Quand l'ONU choisit un représentant de ce gabarit-là, menant cette politique-là, et laisse dire qu'il représente l'ONU, l'ONU fait naufrage totalement. Alors l'ONU a déjà fait naufrage. On en a parlé de nombreuses fois à propos de la Côte d'Ivoire, où ils sont même mêlés d'annoncer des résultats électoraux alors qu'ils n'en étaient pas du tout chargés. Donc l'ONU, en tant que filiale new-yorkaise des États-Unis, est un instrument qui est à réformer totalement. Il faudra que les pays qui sortent de la gang occidentale, s'en occupe. L'ONU a failli à son rôle et le secrétaire général renouvelé, M. Guterres, a beaucoup de choses à se reprocher.
Oui, voilà. Je voulais juste ajouter que Saïf al-Islam Kadhafi est fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale.
Bien sûr, oui, pour l'empêcher, au cas où il aurait eu l'idée d'être élu à la majorité, ça ne serait pas possible. Dernière chose, dans ce chaos, une partie de la population libyenne a décidé de fermer les puits de pétrole en disant, de toute façon, le pétrole, depuis 2011, on ne sait pas qui le vend, on ne sait pas où va l'argent. Donc désormais, on n'exploite plus le pétrole, donc les puits sont fermés. C'est-à-dire qu'à un moment, alors retenez bien la leçon aussi, à un moment où l'Europe dit « j'ai plus de pétrole parce que je n'achète plus en Russie », etc., etc., elle pourrait acheter en Libye, il y en a beaucoup, il est d'excellente qualité, il y a juste la mer à traverser, et donc là, il se trouve que les puits sont fermés, ça tombe parfaitement bien pour mettre l'Europe en difficulté, mais l'Europe est sotte, elle le reste, et on en reparlera abondamment dans nos autres émissions. Voilà, merci. Merci Aïcha, et on a une petite Merci. Chanson pour terminer sur l'impérialisme. On n'a pas. Bon, tant pis, à la semaine prochaine.